Radio Campus Bruxelles 92.1.
Rentrée pour la conspiration des planches. Bienvenue à l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM, comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30. La petite émission pour épingler la foisonnante scène théâtrale bruxelloise. La conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus, pour dire que Radio Campus est la radio de l'Université libre de Bruxelles. Alors, on n'est pas payé par le public, mais en fait, septembre s'ouvre d'abord au public, hein, trois scènes, trois spectacles qui durent au moins pendant un mois et demi. Et donc, on vous fera un tir groupé. C'est pas un devoir imposé, mais c'est un tir groupé qu'ont vu nos chroniqueurs, Nicolas, Christian et Catherine. Bonjour, bonsoir à vous trois.
Bonjour, bonsoir.
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 Alors, Catherine, Christian dit non, il n'a pas été au public, mais par contre, Nicolas est parti au public voir Race de David Mamet. On parlera aussi de Marguerite, hein, Marie-Paul Kums, mise en scène par Virginie Hoc. On ira voir un spectacle de Nicolas Bedos, Promenade de Santé. Et on vous parlera de cette deuxième actualité très intéressante qui est le R Festival du théâtre du Rideau de Bruxelles, exporté pour l'instant au Théâtre Poème. Et c'est un festival de création dédié aux nouvelles écritures de la Belgique francophone, écritures d'auteurs. Et il y a une belle panoplie de comédiens, d'auteurs, de metteurs en scène. 9 lectures gratos, des journées de lecture de mise en voix, comme on dit, et 4 spectacles en chair et en os, mais ils sont tous en chair et en os de toute façon. On en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. Mais là, je me retourne vers Catherine, qui est partie voir Marguerite.
Madame Marguerite.
Et donc c'est Marie-Paul Kums, c'est un seul en scène.
C'est un seul en scène, mis en scène par Virginie Hoc, parce qu'en fait c'est Marie-Paul Kums qui avait mis en scène Virginie Hoc dans son seul en scène, donc c'est un peu un échange de bons procédés, j'ai l'impression. Madame Marguerite, c'est l'histoire d'une institutrice qui va prendre son auditoire en otage. Moi ça m'a fait penser, en moins bien malheureusement, à la journée de la jupe. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Isabelle Adjani, qui est absolument fabuleuse, qui prend aussi, qui pète les plombs et qui prend ses élèves en otage. Et tout ceci va questionner l'école, le féminisme. Enfin, c'est un film, moi, c'est un de mes films préférés. Ici, elle prend les spectateurs en otage. Mais pour divaguer un petit peu sur tout et rien, alors on est dans une salle transformée en salle de classe, le décor est très réaliste, elle est là sur sa petite estrade, elle a un tableau noir derrière elle, et puis on va voir qu'elle est assez lunatique, alors elle est tantôt tyrannique, elle se moque un petit peu de nous, elle nous pousse dans nos retranchements, on est là, on doit prendre des notes parce qu'on a reçu un petit calepin à l'entrée, et puis tantôt elle est un peu séductrice et on comprend pas très bien où tout cela va, et c'est assez dommage parce que c'était l'occasion de vraiment faire une pièce qui s'interroge sur l'école aujourd'hui, qui s'interroge vraiment sur le pouvoir, et voilà, c'est assez dilué, on comprend pas très bien où tout cela va. Marie-Paul Kums donne de sa personne, c'est pas mal, mais ça manque de consistance, ça manque de cohérence, c'est dommage. Ça manque de noirceur, en fait. C'est parce que c'est une pièce qui a été écrite, il faut le dire, par un Mexicain sous la dictature militaire.
Brésilien.
Oui. Et donc, il y avait là une matière noire, politique, mais qui devient une farce ici assez légère.
Ok, mais Virginie Hoc est à la base comédienne, c'est quand même costaud qu'elle mette en scène, c'est sa première mise en scène ou non ?
Oui, c'est sans doute sa première mise en scène, en tout cas je n'ai pas eu vent d'autres mises en scène.
Donc c'est même pas la question de mise en scène, c'est plus vraiment dans le texte ?
Oui, c'est ça, c'est très peu cohérent, ça manque de consistance.
Si Ellie peut venir au micro, si Ellie a aimé Marguerite, Voilà, on donne la parole à la défense.
Oui, malheureusement, il n'y aura pas de défense parce que j'ai trouvé que ce texte qui date effectivement d'il y a très très longtemps n'a pas été adapté de manière à pouvoir être comestible aujourd'hui. Et pour moi, c'était plus une entreprise de marketing, indépendamment de la prestation de la comédienne et de l'énergie qu'elle met, à essayer de nous convaincre de quelque chose qui passe plus. Parce que bon, tout est quasi en dessous de la ceinture. Dire ça dans les années 70, c'est OK. Maintenant, ça n'a aucun sens. C'est pas parce qu'on parle tout d'un coup de éteignez vos GSM qu'on a adapté la pièce. Mm-hmm. Donc, voilà.
C'est dommage parce qu'il y a Franck Andria ou bien il y a une pièce bien comme sûr. L'Instituteur. Il y avait moyen
tout
d'adapter
fait,
dans une vraie commande.
C'est sûr, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui dans une classe. On ne reçoit pas ça comme on a pu le recevoir. Moi, je me souviens, je l'ai vu, j'étais quasi ado à l'époque. C'était encore quelque chose. Enfin, c'était voilà. Mais là, qu'est-ce qui reste? Non, nos oreilles ont changé. Ouais. On n'entend plus les choses de la même
façon. Mais donc, c'est très difficile pour une comédienne de défendre un texte qui est à la base pauvre.
Oui, et je suis d'accord qu'on tombe souvent dans le vulgaire un peu facile où elle se met à dessiner un pénis sur le tableau noir.
Mais il faut replacer les choses dans le contexte. Il y a une certaine époque où c'était osé de faire ça, en public. Maintenant, voilà, c'est être osé et avoir du punch aujourd'hui, c'est autre chose. Faut poser d'autres questions et ces questions ne sont plus là. On est à l'époque d'Internet, n'importe quel gamin a un smartphone, il surfe où il veut.
Oui, mais Michel Bauguin, je crois qu'il tient un steak parce que il a inauguré sa salle en 91-92, ces années-là, avec ce texte-là auquel il tient pour des raisons qui lui sont propres.
Non, mais c'est vrai que c'est un texte qui a fonctionné, c'est un des spectacles que moi j'ai dû voir dans ces années-là, dont j'ai un souvenir, j'ai le souvenir d'Anne Marneff aussi, etc.
Anne Marneff, oui, exact.
Mais voilà, comment est-ce qu'on l'entend aujourd'hui? Ça, c'est la vraie question.
C'est
évidemment
très daté.
Et voilà.
Ça arrive, hein, y a des spectacles qui sont datés, donc c'est rendez-vous manqué. Nicolas, toi, tu es parti voir pour nous l'Amérique comme tu l'aimes, Race,
oui.
David Mamet.
Juste pour conclure sur Madame Marguerite, on va donner les dates, hein, quand même.
Oh, mais tous les dates au rideau, c'est pareil, c'est jusqu'à la mi-octobre,
c'est
au moins.
C'est au public. C'est jusqu'au 26 octobre, donc www.theatrelepublic.be.
Et ça a commencé début septembre, donc chapeau quand même pour un théâtre qui met à l'affiche.
Ah oui, c'est quasi deux mois parfois. Hein, oui, voilà. Alors, reste tout autre chose ici. Retour avec l'auteur David Mamet, donc auteur américain qu'on connaît comme une star de Broadway. Hein, vraiment, à chaque fois qu'il écrit quelque chose en prise avec une certaine actualité, là, il fait des ravages de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, c'est revenu chez nous, voilà, adapté évidemment, traduit. Et c'est Patrice Main qui met en scène donc cette pièce Race qui nous emmène dans un bureau d'avocat. Alors là, on est d'office dans ce bureau. C'est d'ailleurs le principal décor de toute cette pièce. Et c'est dans ce bureau d'avocat, deux avocats, vous me direz, c'est bien. Alors, Alain Lempoul, d'un côté, et son collègue, Black, je le dis à dessein, Émile Abosolo-Embo, voilà, qui sont chargés de la défense d'un homme blanc accusé d'avoir assez riche, accusé d'avoir violé une femme noire. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien non, ça a été écrit avant.
Avant l'affaire DSK.
Mais oui, tout à fait. Apparemment, presque un an avant, je crois. Et comme quoi, c'était quasi prémonitoire. Je ne sais pas si DSK avait lu David Mamet. En tout cas, voilà ce qui s'est passé.
Il l'avait lu.
Et donc, ils sont chargés de défendre cet homme. Et ce qui arrive, évidemment, c'est qu'on est dans une Amérique, dans l'Amérique d'aujourd'hui, toujours ancrée dans des préjugés raciaux. Et ils vont utiliser ces outils de discrimination qui ont été combattus pendant des années pour essayer de défendre cet homme blanc. Parce que ils en arrivent à la conclusion, il est coupable parce qu'il est blanc et elle est victime parce qu'elle est noire. C'est un petit peu les deux histoires qui s'opposent. Et c'est ça qu'ils vont essayer de jouer avec ça et de débattre là-dessus en disant, eh ben oui, il faut essayer de démonter tout ça, ou en tout cas de l'utiliser pour que, dans le sens inverse, on l'accuse aujourd'hui parce qu'il est blanc de par sa nature blanche, eh bien on va dire que c'est une accusation fausse du simple fait qu'il est blanc. Je sais pas si vous me suivez un petit peu.
C'est un peu difficile, mais en tout cas, la mise en scène dans le jeu, c'est argument contre argument. C'est une pièce d'argument, de rhétorique.
Non, en fait, ce qu'il y a, ce qu'on voit surtout, c'est, oui, c'est la rhétorique entre les deux avocats qui parlent et aussi d'un quatrième personnage interprété par Bebita Sadjo. C'est la stagiaire du bureau d'avocat qui est noire et qui, comme avec le déroulement de la pièce, se transforme dans une espèce de transposition de la victime qu'on ne voit jamais, en fait, et qui elle vient justement avec cet argument. Il est coupable parce qu'il est blanc, je suis victime parce que je suis noir. En fait, ce qui se passe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est face au système pénal américain et que ce système pénal se base sur de la rhétorique pure, c'est-à-dire, et Alain Lempoul le dit bien, son personnage le dit bien, ce sont deux fictions qui s'opposent. On s'en fout de la vérité, ou du moins, plus ou moins, on fait avec.
Mais c'est ardu hein, de voir un procès ou argument contre argument. Alors, ouais. Est-ce que l'électeur est largué, l'auditeur?
Oui, moi j'allais dire que du coup, c'est une pièce assez froide, puisque ça manque un peu d'émotion. On est dans la rhétorique. Alors, c'est agréable à suivre, mais on n'est pas pris par les tripes. On observe cette dialectique assez froide. Et moi, j'ai trouvé, encore une fois, que c'était un peu dépassé, cette opposition noir-blanc dans une Amérique aujourd'hui qui n'est plus du tout composée que de noir et de blanc.
Dans l'affaire DSK,
oui,
on en a joué.
Hein. Non,
mais attention, je dis pas qu'il n'y a pas de raciste aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais je dis que on peut plus utiliser les mêmes arguments dans une Amérique
composée. Mais je crois que c'est justement ce que pose la pièce. Ouais. C'est l'utilisation encore de ces arguments aujourd'hui qui sont démontés, et je crois qu'on est face à ça. Et aujourd'hui, dans l'Amérique d'aujourd'hui, je crois qu'on est encore face à ça, ces arguments et ces vieux arguments. On vient de fêter l'anniversaire du discours de la marche sur Washington et de la marche sur Washington de King. Et bien, on est encore dans ces discours-là. Moi, je l'ai ressenti comme ça, et il faut le ressentir comme ça, comme une pièce américaine qui nous parle de l'Amérique.
Mais en tout cas, la rhétorique, enfin, soit on rentre dans un passionné de débat rhétorique ou politique, et alors la pièce, on la prend avec passion, mais si on attend autre chose du théâtre ou d'une fable ou d'une histoire, on peut être aussi largué. Donc ça, c'est une matière ardue.
Voilà. Pour avoir déjà
vu. Non, c'est du Broadway. Oui. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu une autre pièce célèbre de ma mère qui s'appelait Oléana au Rideau de Bruxelles. À l'époque, c'était le Rideau de Bruxelles qui importait Broadway et qui le donnait à son public. Maintenant, c'est le public. Bref, c'est du Broadway, c'est-à-dire normalement quelque chose de relativement facile par rapport, enfin, qui attire du public payant et qui aime ce genre de débat noir-blanc, c'est le cas de le dire, où il y a des rhétoriques qui s'affrontent. Et c'est relativement populaire aux États-Unis. Broadway, c'est pas off Broadway. Hein.
Oui, ben Nicolas n'a pas été dans le off Broadway. Donc toi, tu as aimé Nicolas.
Mais j'ai aimé parce que moi, j'aime bien toutes ces cultures américaines et qui nous parlent de ça. Ce que j'ai moins aimé au niveau théâtral ici, dans ce qui nous est offert, c'est vraiment la mise en scène qui est un peu plate et qui, à mon avis, est imposée aussi par ce style de texte très rhétorique. Mais j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit peu plus. Il y a un jeu sur la lumière qui est fait pour clore le débat. Et pourquoi ça n'a pas été suggéré plus tôt dans la pièce, voilà.
Qui signe la mise en scène?
Patrice Minck, donc, et je rappelle les comédiens sur scène, Alain Lempoul, Babetida Sadjo, Emile Abosolo-Embo, et Jean-Michel Vov, qui est en fait l'accusé, et qui est un petit peu en dessous, moi, je trouve, en méforme. Enfin,
et voilà. Je me demandais comment on fait des intermèdes entre deux rhétoriques, entre deux arguments.
En fait, c'est vraiment une pièce en trois actes, hein. Je sais pas si tu te rappelles, Catherine, il y a vraiment trois moments qui sont marqués comme ça, et la rhétorique, c'est pour les, et en fait, ça marque aussi l'entrée et la sortie des personnages, puisque le combat verbal, la joute, n'est pas toujours entre les mêmes. Quoi. Il y a
Mais on peut aussi dire que ça, par contre, je le trouve très réussi. C'est vraiment du tac au tac. Ils se renvoient les arguments et ça fonctionne très très bien.
Ben oui, il faut miser sur la rhétorique, justement. Voilà.
Donc les boulons de la mise en scène ont été efficaces dans ce rythme.
Voilà.
Alors, petite pause musicale et on ne fera pas de joute là-dessus.
Alors, dire que c'est pas comme Madame Marguerite, Ray, c'est jusqu'au 19 octobre, www.theatrelepublic.be.
La conspiration.
Retour à la conspiration des planches sur ce. Et on retourne au public, hein. Donc je préviens, on n'est pas payé par le public, mais c'est le public qui ouvre la saison avec trois spectacles à tous les étages, hein. Nicolas, tu peux nous rappeler Race. Quelle salle?
C'est la grande salle.
C'est la grande salle. Alors, le Marguerite Marie-Paul Cum, c'est quelle salle? C'est la petite salle des voûtes. Et alors, la troisième salle, Catherine, toi, tu es partie voir le Promenade de Santé, Nicolas Bedos. Comment s'appelle la salle? La cave.
C'est ça, c'est dans la cave.
Ok, donc les voûtes, la grande salle et la cave. Alors dans la cave, c'est Nicolas Bedos, promenade de santé.
Alors il faut dire une très belle écriture, Nicolas Bedos. Ne vous fiez pas au trublion hyperkinétique qu'on voit à la télé, qui va bientôt aller chez Ruquier, si j'ai bien compris, qui aime provoquer, qui n'est pas toujours très subtil. Ici, c'est vraiment une belle plume, avec une idée toute simple. C'est un duo, un homme et une femme qui sont tous les deux en hôpital psychiatrique pour soigner leurs maux. Alors lui, il est maniaco-dépressif, je ne sais plus encore trop quoi. Enfin, ils ont chacun des maladies mentales assez handicapantes. Elle est nymphomane, entre autres. Lui est suicidaire, elle aussi.
La totale. Bah, voilà.
Évidemment, ces deux êtres cabossés vont peu à peu apprendre à se connaître, s'apprivoiser. Évidemment, tomber amoureux, mais c'est pas facile de tomber amoureux quand on a... tous ces défauts-là.
C'est la guérison, alors.
Ben, pas vraiment. En tout cas, ils sont tous les deux assez maladroits en amour. Et voilà, c'est Tania Garbarski, qui est la fille de Sam Garbarski. On la voit d'ailleurs dans quasiment tous ses films. Et Charlie Dupont, qui est en fait son compagnon dans la vie aussi. Tous les deux sont mis en scène par Hélène Tennyson, avec un décor magnifique, parce que c'est simplement un arbre au milieu qui est construit de gaz. Donc, cette matière qu'on utilise pour faire les bandages. Et donc, cette matière-là crée un arbre qui surplombe ce couple-là. Et voilà, c'est assez simple, mais l'écriture de Nicolas Bedos est très cruelle. C'est assez féroce, en fait. Tous les deux sont plutôt cyniques en amour. Alors, je vous révèle pas la fin, parce qu'en plus, il y a un petit twist inattendu.
On dit coup de théâtre dans l'émission.
Ah, coup de théâtre, si vous
on
voulez.
On va défendre nos mots.
Les vieux mots, ça.
On croit être dans une comédie sympathique, et puis finalement, on bifurque dans un autre registre à la toute fin. Donc vraiment, c'est une pièce agréable.
Mais Hélène Tennyson fait des beaux petits bijoux. Elle a toujours des scénographies très poétiques. Je crois que c'est une
elle est remarquable metteur en scène. Moi, j'avais un doute, mais j'ai pas encore vu la pièce, mais tu donnes envie d'aller la voir, parce que je me disais, est-ce que Nicolas Bedos, le clown qu'on connaît, qui fait des trucs délirants, bon, ici, apparemment, il y a deux délires, mais enfin, il a réussi à bien les conformer. Je me disais, est-ce que Nicolas Bedos peut être interprété par d'autres que Nicolas Bedos? Et apparemment, oui.
Ah oui, tout à fait. C'était d'abord interprété par Mélanie Laurent à Paris. Ça a eu beaucoup de succès. Maintenant, par ce couple-ci. Et c'est intéressant parce que ça nous parle à tous, parce que finalement, c'est l'amour à la folie. Eux sont vraiment fous. Mais quand on est, nous, amoureux, on est aussi un peu fou, j'imagine.
Donc, tu as vu les trois, Catherine, c'est meilleur. C'est ton coup de cœur.
Oui. Ah oui, c'est vrai, Catherine, tu as vu les trois. Donc, dans le trio, on a Marguerite, Marie-Paul Kums avec un texte un peu daté. Reste, pour ceux qui aiment la joute, hein, le problème noir, blanc en Amérique, argument contre argument, avant l'affaire des SK. Et il y a cette faille poétique, finalement, dans la cave. Donc, toutes les salles sont assez bien trouvées. Donc, voilà, allez sur le site, évidemment, du public.
Promenade de santé de Nicolas Bedos jusqu'au 19 octobre également. www.theatrelepublic.be.
Alors, autre actualité de la saison, la rentrée de la saison, donc c'est le R Festival, 4 R pour le Rideau de Bruxelles, l'histoire de bien rugir et se faire entendre, c'est sur les écritures contemporaines. Ça a commencé lundi, c'est dans le théâtre Poème. Et Christian, toi tu es parti voir pour nous le dire troublé des choses de Patrick Lerche.
Oui, il faudrait peut-être dire que... C'est quoi ce R Festival, non, Catherine?
C'est les jeunes écritures. Donc, c'est les jeunes écritures francophones. Il y a 4 spectacles, donc auteurs francophones, un peu les valoriser. On disait à un moment donné, c'est pas des écritures de plateau, donc c'est des auteurs qui signent, parce qu'apparemment, ça deviendrait rare. C'était mettre en valeur ces auteurs. Et il y a, par exemple, Patrick Lerche, le dire troublé des choses. Patrick Lerche est un comédien à la base. Ici, il se met à l'écriture. On voit des gens comme Thierry Lefebvre, comme Alex Lorette, Éric Durnet, Mabardi, évidemment, Odile Van Steenwinckel, et on recevra la semaine prochaine Marie-Henri et Régis Duquet, des noms que nous on connaît dans les auteurs belges, finalement on en a beaucoup. Hein.
Grosso modo, à la louche, presque tous comédiens à la base quand même, quand j'entends la liste.
Et la francophonie, la Belgique francophone est petite, il y a beaucoup de comédiens mélangés dans ce festival qui est très intéressant, comme Alex Lorette, comme Johan Blanc, comme Marie Boss, comme Hervé Piron, Zunconi, donc il y a vraiment une belle palette dans les journées lecture de mise en voix pour écouter les textes. Et donc, le festival a ouvert lundi avec ce dire troublé des choses de Patrick Lerche.
Oui, j'allais dire que j'ai vu avec un petit peu de retard, et donc je suis je vais vous parler d'un seul des quatre solos à voir, à savoir le dire troublé des choses. Commençant un peu en retard, il a bien fallu commencer par quelque chose, et je dois dire que j'étais un peu sceptique en lisant le faire-part, comme on dit. Ça m'avait l'air un peu troublé et ne disant pas grand-chose. Et à ma grande surprise, ça dit énormément. Ça dit énormément parce que ce... Mon scepticisme venait de quoi ? C'est que Patrick Lerche avait écrit tous les jours, pendant 60 jours, un texte et qu'on avait fait la synthèse. Je me dis, oh là là.
Un texte court sur son univers de théâtre.
C'est quoi cette synthèse ? Eh bien, ça repose sur les épaules de deux superbes comédiens. Allez.
Pierre Sartenard, notre comédien.
Nathalie Laroche et Pierre Sartenard.
Et Nathalie Laroche.
Nathalie Laroche et Pierre Sartenard. Qui ont une qualité, c'est qu'ils s'entendent bien. Ça se voit bien sur le plateau. Qu'ils se répartissent un dialogue homme-femme qui vient au fond du quotidien d'un seul homme, mais c'est bien adapté. Ils ont pris dans les 60 ce qui leur convenait. Et ce choix est judicieux. Parce qu'on voit Sartenard. En plus, leurs styles sont différents. Vous avez la femme passionnée, un peu brutale, qui, bon. Et vous avez l'impeccable British Sartenard qui raconte son quotidien avec un détachement fin qui permet d'entrer dans tout ce qu'il dit, qui est d'une banalité affligeante. Si on lit le texte, on dit, mais pas possible de faire du théâtre avec ça. Eh bien, oui. Alors, je vois trois moments dans une vie quotidienne, qu'est-ce qui se passe ? Il est au petit matin et il décrit ses gestes imbéciles du petit matin avec une telle cohérence et un tel désespoir qu'on entre dedans, on est dans l'imbécilité du quotidien, et c'est une force extraordinaire. Deuxième moment fort, il y en a beaucoup, hein. Il est camionneur, et on le suit dans son camion, dans son travail imbécile. Donc il a un lever imbécile, il a un travail imbécile, et la fin, les deux comédiens se réunissent sur un thème commun, la mort de la mère. Et tout ça sans avoir l'air d'y toucher, tout ça sans pathétique, parce que si Nathalie Laroche est plus vigoureuse, ça ne tombe jamais dans l'emphase. Et donc, on parvient à partir d'un texte tout à fait contemporain, qui vient d'être écrit, qui est sorti tout chaud du four, tout froid du four, parce que il faut le réchauffer, ce plat. Mais on le réchauffe pas au micro-ondes, mais avec deux vrais grands bons acteurs. Et pour moi, c'est vraiment un coup de cœur qui annonce peut-être d'autres beaux coups de cœur, parce que si les acteurs se mettaient à écrire comme des écrivains, eh ben, chapeau.
Est-ce que c'est une forme fragmentée ? Parce que moi j'ai des souvenirs de Patrick Lerche qui était fort dans le fragment, fort dans choses.
Le problème c'est qu'on ne s'en aperçoit pas. Je vais demander à Nicolas de dire l'autre force qui fait qu'on ne s'aperçoit que c'est une écriture un peu grise. Alors Nicolas,
Alors juste dire sur cette écriture grise, c'est comme on a dit, une succession de monologues qui se croisent de temps en temps, hein, Christian l'expliquait, ils sont noués. Et en plus d'être noués par le texte, sont noués aussi par un accompagnement musical exécuté en direct par David Kertinier, et ça c'est vraiment, ça amène formidablement la liaison, le liant de tout ça, et ça nous permet aussi de garder une attention très forte du début à la fin. Le spectacle dure une heure environ, et franchement on a des riffs de guitare, on a du jazz, on a de la soul, enfin on a un petit peu tout, vraiment des bribes comme ça de musique, et c'est vraiment le top.
Et Nicolas, Pierre Sartenard.
Ah, très bon, hein. que peut-on dire face à ça, puisqu'on est tout de suite pris par ses mots, par sa parole et par lui qui est là devant nous. Et là aussi, ce qui est aussi fascinant, c'est qu'on est dans une économie de moyens au niveau de la mise en scène. Ils sont tous les deux sur des petits podiums comme ça, avec leur micro, et ils bougent, ils vont de l'un à l'autre, et c'est comme s'ils interprétaient à chaque fois un personnage différent, mais on sait que c'est le même, et voilà, on est entre les deux et c'est facile.
Donc le dire troublé des choses, c'est un des premiers spectacles de ce festival R à voir au Théâtre Poème.
Et ça annonce bien le reste, j'imagine.
Et on verra trois autres spectacles qui s'appellent Tarzan, on en reparlera la semaine prochaine, Seul avec l'hiver, Céline Delbecq, Magnificio.
Ouais, ça donne envie de tout voir, franchement.
En tout cas, il y a vraiment une très belle programmation qui a été bien choisie, bien fignolée par le Rideau de Bruxelles, juste pour dire que jusqu'au 5 octobre. Tous les samedis, il y aura des journées de mise en voix. C'est gratuit, ça vaut vraiment le coup de se frotter à ce moment intime où des comédiens lisent un texte. Parfois, le texte est en main, donc c'est pas un texte, c'est pas une lecture scolaire, c'est juste une belle mise en voix, comme son nom l'indique. Donc, il y a un petit raffinement et c'est vraiment des beaux temps d'écoute de textes. Alors juste pour dire, par exemple, ce samedi, il y aura Géographie de l'enfer, Alex Lorette, qui nous emmène au fin fond d'une forêt où des gens vont débarquer, s'entrecroiser et probablement se prendre la tête. Il y aura Dans les rues de n'importe où, Thomas Deprec, l'auteur qui travaille avec Antoine Lobin, qu'on aime beaucoup. Et lui, c'est sur le couple, il va analyser un peu les pulsions, les passer au scanner. Il y aura aussi Alberto et communiste de Pierre Lorquet. Alors là, c'est Guy Tenissen, il y aura 13 comédiens pour faire cette mise en voix. C'est gratuit, ça commence dès 11h. C'est vraiment une ambiance particulière.
Alors, c'est gratuit pour les lectures, les mises en voix, mais les spectacles, évidemment, là, il faut payer sa place.
Oui, et moi, j'attends avec plaisir Tarzan, avec R, et de Thierry Lefebvre, et Seul avec l'hiver de Céline Delbecq, qui, elle, c'est à peu près la seule non-comédienne. Enfin, elle est comédienne, mais elle fait des textes déjà où elle ne joue pas.
Dans les jeunes auteurs. Alors ainsi se termine la conspiration des planches. On vous a emmené dans deux lieux seulement, mais il y a déjà beaucoup dans ces deux lieux. Le théâtre, le public, le trio des spectacles et le R Festival. Nicolas rugit un peu pour terminer cette émission.
www.rideaudebruxelles.be et toutes les infos sur notre site www.radiocampus.be et le podcast de cette émission, demandezleprogramme.be. Belle semaine à vous.